philosophie morale, Père Philippe, 23 décembre 1982, Rimont.
Nous allons essayer de continuer ce point de vue de la philosophie éthique, de la philosophie morale. Alors, je réponds d'abord aux questions. Il y en a plusieurs. Pouvez-vous préciser la distinction que vous avez faite entre l'union affective et l'union effective? Je vous avais dit que c'est à cause de ça précisément que l'intention apparaît et que le choix va aussi apparaître. Autrement, l'amour serait tout. En Dieu, l'amour suffit. C'est pour ça que je dis que Dieu est amour. L'amour en lui-même suffit. Pour nous, notre amour, qui provient de notre volonté, notre amour à l'égard d'un bien spirituel, c'est-à-dire une personne, notre amour ne suffit pas à tout. Cet amour va être source d'une intention morale, une intention de vie. Et d'une certaine manière, je pourrais dire que la morale commence avec l'intention. L'intention regarde non plus seulement le bien, mais la fin. Nous avions essayé de préciser, on va continuer de voir ça, parce que c'est intéressant de voir le passage du bien à la fin. C'est au fond très difficile. Mais c'est très intéressant, puisque c'est vraiment, c'est pas à partir du bien que la morale se structure. La morale se structure à partir de l'intention. Le bien est le fondement premier, dernier. Alors, pourquoi la nécessité de ce passage? Parce que notre amour à nous, l'amour le plus profond qui provient de notre volonté, de notre cœur profond, pour que vous voyez bien, c'est le cœur profond qui aime, et c'est la volonté qui aime. Notre amour est intentionnel. Il n'est pas substantiel. En Dieu, l'amour est substantiel. Il est son être. Et c'est pour ça que l'amour suffit à tout. Dieu est amour. En nous, l'amour n'est pas notre être. Si notre amour était notre être, on n'aurait plus qu'à aimer. On serait bien heureux. Parce que celui qui n'a qu'à aimer, il est bien heureux. Ça, c'est bien évident. Quand il aime substantiellement, il est heureux. Si notre amour était substantiel et notre amour est intentionnel, alors on va bien voir ce que c'est, la différence. Si notre amour, parce que notre amour est intentionnel, il y a une distinction entre l'union affective intentionnelle et l'union effective. Alors, c'est ça la question, vous allez voir. Pouvez-vous préciser la distinction que vous avez faite entre l'union affective et l'union effective? Peut-il y avoir une union effective s'il est vrai que l'amour humain n'est jamais substantiel, mais reste toujours intentionnel? Vous voyez bien la différence qui existe entre l'union affective qui est intentionnelle, c'est bien évident. Si mon amour était substantiel, il serait tout. Mais comme mon amour est intentionnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas mon être, en définitive c'est ça, et qu'il ne rejoint pas, il rejoint le bien de l'autre, mais il ne s'identifie pas à l'autre. Des deux côtés, des deux amis, parce que nous sommes partis d'amour d'amitié, hein. Des deux côtés, c'est un amour intentionnel. Qui dit intentionnel dit quelque chose qui n'est pas adéquat au réel. L'intentionnalité. Il faut se rappeler ce que c'est que l'intentionnalité. Je l'ai vu en première année, hein, tout à fait. Nous avons vu ce que c'est que l'intentionnalité. Mais ça, on retrouve ici. L'intentionnalité, c'est justement la distance qui existe entre le vital et l'être. ce qui est vital, mais le germe contient le grand arbre, mais le contient virtuellement, intentionnellement. Il n'est pas le grand arbre. Quand le grand arbre existe, alors à ce moment-là, l'intentionnel se transforme en naturel ou substantiel. Le germe n'est qu'intentionnellement le grand arbre. Eh bien, l'amour intentionnel n'est qu'intentionnellement l'union efficace de deux personnes. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'union affective qui est au niveau de cet amour intentionnel et l'union effective? C'est que l'union effective, c'est la vie que deux êtres pourront avoir ensemble. Pour avoir une vie ensemble, quand on réalise quelque chose avec quelqu'un, ce n'est plus uniquement intentionnel. C'est efficace, c'est effectif. Et on réalise cette union. Et cette réalisation de l'union, alors, pourra aller plus ou moins grand, mais il y aura tout ce qu'on représente la vie commune avec la vie. Tout ce qu'on représente la vie commune, tout ce qu'on peut faire avec un ami qui montre le point de vue de l'union intentionnelle qui veut devenir efficace, qui veut devenir effective. Mais comprenons bien, l'amour, l'union effective ne sera jamais adéquate à l'amour intentionnel. Et c'est pour ça qu'on reviendra toujours à l'amour intentionnel. Dans un autre ordre. C'est ce que je crois, toute la différence qui existe dans ce que l'évangile de Saint Jean nous montre, le cri de soif du Christ et la croix. La croix est une œuvre d'amour, mais c'est une œuvre, c'est de l'ordre de l'efficacité. Et la soif du cœur de Jésus montre son amour par rapport à lui. Cet amour, bien qu'il est divin, garde toujours un mode intentionnel, n'est pas adéquat. L'œuvre n'est jamais adéquate à cet amour. Et cet amour dépassera toujours l'œuvre. C'est la même chose pour nous, analogiquement. C'est la même chose pour nous. Quand on aime quelqu'un, on veut l'unité. Oh, je t'aime tellement que je te mangerai bien. C'est bien ça. Je t'aime tellement que je te mangerai bien. Vous voyez, alors là, l'assimilation biologique, hein, c'est quelque chose d'extraordinairement fort. On voudrait que l'autre soit nous et que nous soyons l'autre, que nous transformions en nous. On sait très bien que c'est impossible. C'est métaphorique, hein. C'est poétique à sa manière. C'est un poétique extraordinaire, c'est métaphorique. Alors, on sait très bien ce que ça veut dire, c'est qu'on veut l'unité d'être avec celui qu'on aime. Et on sait que c'est impossible. C'est pour ça que tout amour sera source de souffrance. Toujours. Il sera source de souffrance parce qu'on veut l'unité et que l'unité est impossible. La vie commune représente une certaine union affective, mais une union affective très partielle. Elle ne peut pas être tout le temps. C'est pour ça qu'il y avait ces rêves extraordinaires, vous savez, de vivre dos à dos, hein, comme ça, on voit très bien, c'est l'androgyne, on est lié, hein, comme ça, d'une façon telle qu'on ne peut pas se séparer. On ne peut pas se séparer. C'est la mère qui porte son gosse dans son dos pour qu'il soit là le plus proche possible. Mais il y a quand même deux êtres, il y a une juxtaposition quantitative. Et la juxtaposition quantitative va contre l'unité effective. Notre conditionnement humain, notre individu, fait que l'union effective ne pourra jamais être réalisée parfaitement. Et c'est pour ça que de l'union effective, on reviendra à l'union affective. En disant après tout, mais c'est encore beaucoup plus grand l'unité que nous avons effectivement. C'est très vrai. Mais elle est intentionnelle. Et c'est pour ça que tout amour va impliquer une certaine blessure. Il ne peut pas être autrement. Il n'y a qu'en Dieu où l'amour fait l'unité parfaite entre l'amour et l'être. C'est très extraordinaire quand on pense ça. C'est en ce sens-là, vous voyez, que l'amour est le moyen le plus direct d'aller à Dieu. Au moins une voie d'accès à Dieu. Tandis que l'intelligence, il faut passer par des quantités d'intermédiaires. Tandis que l'amour appelle l'amour. Et l'amour que je ressens pour un ami, étant donné que je vois tout de suite la distinction entre l'intentionnalité et l'union intentionnelle, l'union affective et l'union affective, je vois que l'amour qui est en moi n'est pas parfait. Il existe comme amour, il désire le don total, mais il n'est pas parfait. S'il était parfait, il devrait être adéquat à l'être. Il y a une distance entre l'amour et l'être. Et donc, cet amour montre qu'il doit y avoir un être dans lequel l'amour, c'est son être. Dans lequel l'être et l'amour font qu'un. Ce n'est pas une démonstration absolue, rigoureuse, mais c'est très fort. Ça, c'est les raisons du cœur. Hein. C'est très fort. Et c'est pour ça que l'amour, tout amour qui est véritablement amour, est un appel vers Dieu. Tout de suite, tout amour vient de Dieu. C'est ce que dit Saint Jean. Quand il dit tout amour vient de Dieu, c'est ça que Saint Jean veut dire. Alors il le prend du côté de Dieu, mais je peux le prendre du côté de l'appel. L'amour est un appel vers Dieu. Parce que, de fait, tout amour humain implique une limite, et parce qu'il implique une limite du côté de l'exercice, il n'implique pas de limite du côté de l'objet. J'aime l'ami, c'est l'ami que j'aime. Là, il n'y a pas de limite, c'est un certain absolu. Et cet ami, quand il est Dieu, c'est encore plus fort. Mais du côté de l'exercice, il est intentionnel. Et donc, il implique une limite. Il implique de se réaliser à travers des œuvres, mais les œuvres ne sont jamais l'amour. Même des œuvres faites ensemble. Même des œuvres si belles que ce soit faites ensemble, même quand il s'agit du mariage, où il y a l'union des corps, ça reste encore une union, une unité limitée, qui n'est pas adéquate à l'union affective. Et alors cette union des corps peut être, ça fait partie de l'union physique, donc l'union effective, mais elle n'est jamais adéquate à l'union affective. Et c'est pour ça que je dirais, plus on sent les limites de l'union affective, plus on revient à l'union affective, en comprenant que l'union affective a au moins quelque chose, vous voyez, de possible, pas parfait, mais de possible qui dépasse ces limites. Parce que dans l'affectivité, dans l'union intentionnelle, il peut y avoir une unité. Idem velle, le même vouloir. On peut tendre vers le même objet. Et alors à ce moment-là, il y a une union intentionnelle beaucoup plus forte. Alors vous voyez, c'est ce point de vue-là que je crois très important à saisir. Ça. C'est ce point de vue-là qui est très important à saisir. Que donc, l'union effective ne sera jamais substantielle. Elle provient de l'union affective et elle retourne vers l'union affective. Parce qu'elle est toujours limitée, elle est dans l'exercice d'un conditionnement qui fait que les amis sont extérieurs l'un à l'autre. Ils sont deux, alors qu'ils voudraient être un. Ils voudraient être un dans l'amour. L'amour, dire que l'amour implique la dyade, ça c'est les pythagoriciens qui disent ça, c'est pas tout à fait vrai. L'amour veut l'unité. C'est une force unitive, l'amour. Ça veut l'unité entre celui qu'on aime et nous-mêmes. Or, cette unité est vécue affectivement, intentionnellement. On veut la concrétiser effectivement. Et dès que je retombe dans l'effectif, je vois toutes les limites et toutes les impossibilités. Alors, je reviens à l'affectif. Ce qui fait comprendre comment on peut très facilement idéaliser l'amour. À cause de ça. Mais il faut comprendre qu'on va toujours de l'un à l'autre. L'union affective, les deux. Et l'union affective appelle l'union affective, et l'union affective, à cause de ses limites, me fait revenir à l'union affective. Vous voyez, je vous dis, c'est le cri de soif du Christ sur la croix, ça me semble être l'exemple le plus net, le plus assez extraordinaire de cela. On verrait quelque chose d'analogue, vous savez, dans le point de vue de Socrate qui boit la ciguë. En considérant que, étant donné son amour qu'il a pour les hommes, fait qu'il veut respecter la loi, et donc il prend la ciguë, c'est pas grand chose. Parce que l'union affective est telle qu'elle assume ça, l'offrande de sa vie. Et je crois que ça, c'est vraiment ce qui fait comprendre le hiatus entre l'union affective et l'union affective. Mais c'est sûr que l'union affective ne sera jamais substantielle. Mais elle sera quand même quelque chose de concret qui permettra de mieux comprendre comment cette union affective, parce qu'elle est réaliste, demande une certaine réalisation. Oui. Oui. Jésus, par amour, porte la croix. C'est son œuvre. Donc c'est du côté efficacité, efficience. C'est porté par l'amour. Ça provient d'amour. Mais ce n'est pas adéquat l'amour. Et c'est pour ça qu'au moment même où il réalise la croix, il y a le cri de soif pour montrer l'inadéquation de la croix par rapport à la source d'amour cachée en lui. Vous voyez ? C'est l'inefficacité, c'est l'abîme qui existe entre les deux. Je crois ça très important à saisir au point de vue humain. Le passage de l'affect, de l'amour pur à l'intention. On doit passer de l'un à l'autre. Si on ne passe pas de l'un à l'autre, on tombe dans la velléité. C'est très dangereux. Donc il faut l'intention. Mais l'intention est inadéquate par rapport à l'amour. Ça, il faut saisir. Pourquoi ? Parce que d'un côté, je suis en face de l'amour dans l'union affective du côté intentionnel, qui du côté objectif est absolu. Tandis que dès que je tombe dans l'intention de vie, je suis en présence de quelque chose d'abord de beaucoup plus subjectif. Mon intention de vie mobilise toutes mes forces. J'ai l'intention de tendre vers ce bien qui est ma fin. Il y a une espèce de domination, le point de vue du sujet est beaucoup plus fort ici dans l'intention. Il parle du point de vue de l'intelligence. L'intelligence est beaucoup plus présente dans l'intention de vie que dans l'amour. L'amour fait que je me... L'amour, c'est vraiment le bien qui m'attire. Tandis que dans l'intention de vie, ce n'est pas le bien qui... C'est toujours le bien qui m'attire, il est toujours là présent, parce qu'il n'y aurait pas d'intention de vie s'il n'y avait pas le bien qui m'attire. Mais il y a un ordre. L'intention de vie implique un ordre. Implique une mobilisation de toutes mes forces en vue d'acquérir la fin. Et acquérir la fin, c'est justement ce que j'appelle une certaine efficience, comparativement à la pure affectivité. C'est pour ça que l'affectivité est présente dans l'efficience. S'il n'y avait pas l'affectivité avant, alors j'aurais tout simplement une intention de vie à la manière des stoïciens. L'intention de vie à la manière des stoïciens, c'est ramener l'affectif à l'efficience. Et il n'y a plus d'efficience. Un stoïcien veut réaliser. J'ai un but dans ma vie. Et on dira même le but. À la fin, à la place d'être une fin, c'est un but. Et on appellera l'intention un projet, un but. Et à ce moment-là, c'est l'efficience qui domine. Et l'amour disparaît. Alors c'est la mort de l'efficacité, c'est la mort de l'union affective pour l'efficience. Mais ce qui arriverait dans un aspect purement ascétique, une vie purement ascétique, j'ai compris l'idéal de ma vie. Maintenant, ça y est, attention, tout est mobilisé pour ça. Et à force de conquérir, je veux conquérir la sainteté. Alors, il faut dire à quelqu'un, la sainteté, ça ne se conquiert pas. Ça se reçoit gratuitement par un amour. Et ça ne se conquiert pas. Mais qui une phase sportive dans la recherche de l'amour et de la sainteté, c'est normal. C'est la phase sportive. Saint Paul nous prend toujours des exemples sportifs. Vous voyez ? C'est stoïcien. Ça, c'est les exemples stoïciens qui nous font comprendre cela. C'est à force de poignée qu'on arrive, vous voyez. Et alors, on doit y arriver de cette manière-là. Alors ça, c'est l'intention de vie. Oui. C'est très bien, c'est très beau, il faut ça. Il faut ça, graduellement, il faut que l'amour l'emporte. Graduellement, parce que si on reste toujours là-dessus, ça devient grave. N'est-ce pas? Le côté affectif va disparaître. C'est pour ça que c'est tellement difficile, vous voyez. Chez certains, le danger est du côté de l'efficacité. Chez d'autres, le danger, c'est du côté de l'affectif. Ils ne passeront jamais à l'intention de vie. Ils resteront dans la pure, le pur amour. Et alors, à ce moment-là, ce pur amour risque de tomber dans la velléité. Il y a un affaiblissement de la volonté. La volonté, par le point de vue imaginaire, hein, c'est l'imaginaire, ça. C'est l'imaginaire qui va se mêler à la volonté, qui va se mêler à cet amour qui est spirituel, et va faire que cet amour spirituel ne sera plus spirituel, deviendra imaginatif. Et là, vous serez en face d'une velléité. Une velléité à la manière un peu d'Épicure. Hein. Vous voyez, Épicure, c'est un peu ça. C'est les stoïciens Épicure. On voit très bien les deux. Moi, ce que je veux uniquement, c'est aimer, c'est me complaire dans l'amour, c'est uniquement aimer, il n'y a que ça qui m'intéresse. Le reste, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas digne d'un homme, le reste, parce que c'est une intention de vie. Et les stoïciens fassent l'intention. Les deux ont vécu comme ça, du reste, toujours l'un en face de l'autre, hein, Épicure et l'un. Et je crois que c'est le propre d'une vérité profonde, c'est de comprendre ce qu'il peut y avoir de vrai dans Épicure, ce que peut y avoir de vrai dans le volontarisme stoïcien. Il y a quelque chose de vrai. Vous voyez, les épicuriens sont d'une certaine manière plus proches de la vérité. Parce que l'amour est premier et l'intention est seconde. C'est jamais l'inverse. C'est jamais l'inverse. Mais l'intention est seconde. L'intention de vie, c'est mobiliser toutes mes forces en vue de la conquête du bien, en vue de la conquête de cette fin. Alors, vous voyez, le passage du bien à la fin, ça c'est très très important, je vais y revenir. Je réponds d'abord aux questions. Dans quelle mesure peut-on parler d'un fondement de la science éthique? Si oui, quel est-il? J'ai dit que c'était la recherche moderne, je n'ai pas dit que j'assumais ça pour mon chapeau. N'est-ce pas? Non, j'ai dit que c'était la recherche moderne. On cherche un fondement de la science éthique. En réalité, il n'y a pas de fondement de la science éthique. Il y a une finalité. Ce n'est pas un fondement, une finalité. Et ça, faites dire ça à ceux qui cherchent le fondement, ils vous recevront bien. Parce que c'est plus facile de rechercher le fondement. C'est toute la philosophie contemporaine. Depuis le jour, alors, remontons à Occam. Depuis Occam, la finalité est arrêtée dans la philosophie. Donc, depuis le 14e siècle. Et là, qu'est-ce qui se fait que dès qu'il n'y a plus de finalité, c'est le fondement. C'est ce qui explique, vous voyez, la terminologie d'un Heidegger en parlant ontologie fondamentale. Ça n'a pas de sens. Rigoureusement de dire ontologie fondamentale. Ça n'a pas de sens, puisque l'être est nécessairement fondamental, il est premier. Mais l'être n'est jamais fondement. Ça n'a pas de sens de dire ontologie fondamentale. Alors, des gens aussi intelligents que Heidegger, aussi sensibles aux mots que lui, parlent d'une ontologie fondamentale. Ça prouve qu'il y a quand même quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'une ontologie ne peut pas être fondamentale. Elle l'est par nature. Elle n'est pas fondamentale, elle est tout. L'être, il est dans le fondement, il est dans... Il n'y a que le sous-sol qui est l'être. Hein. Tout le reste, c'est du vent. Non, pas du tout. Tout le reste est aussi la structure d'une maison, c'est de l'être. Et la finalité, c'est de l'être. Tout est être. Donc il n'y a pas que le fondement. Dire ontologie fondamentale, vous voyez, c'est très curieux, ça. Ça montre justement qu'on a oublié le sens de la finalité. Et alors, je crois, et à la suite de Heidegger, on cherchera une éthique fondamentale. On cherchera le fondement de l'éthique. Or, au sens strict, il n'y a pas fondement d'éthique, il y a une finalité. C'est la nature humaine, découvrant sa finalité, qui permet de structurer l'éthique. Tant que je n'ai pas découvert ma nature humaine finalisée, je ne peux pas structurer l'éthique. Donc ce n'est pas la loi naturelle qui structure une éthique, ce n'est pas la nature humaine comme telle qui structure une éthique, c'est la loi nature humaine finalisée. Et je ne dis pas la nature humaine capable d'aimer, vous voyez. L'amour et le bien enveloppent l'éthique. Point de départ et au terme. Ça l'enveloppe, mais ça ne la structure pas. Ça ne me donne pas la possibilité de structurer. L'amour ne peut pas se structurer. C'est la finalité qui structure. Peut-on dire que ce fondement est la capacité de saisir la finalité dans les actions concrètes et singulières? Je dirais, oui, si vous voulez, comme fondement, je peux dire ça en dernier. Mais puisque c'est une capacité, c'est de l'ordre potentiel, je ne peux rien structurer à partir de là. Je peux structurer qu'à partir de l'acte. Donc ça ne m'avance à rien. Ça n'avance à rien. Je peux dire ça en dernier lieu, c'est bien évident. C'est la capacité de la nature humaine qui a d'aimer et d'avoir une intention qui est le fondement. Mais ce n'est pas le fondement qui est intéressant. C'est de chercher ce qui est le principe propre de l'éthique, la finalité, qui va me permettre de structurer l'éthique. Donc l'intention. Dernière remarque. Un même homme peut-il vivre dans le même temps plusieurs amours d'amitié? Oui. C'est bien évident. Parce que l'amour n'est pas dans le temps. Si l'amour était dans le temps, il ne pourrait pas. Je ne peux pas aller en même temps à Fribourg et à Lyon. Dans le même temps. Je ne peux pas aller dans le même temps, Fribourg ou Paris, c'est encore mieux, parce que Lyon pourrait dire, ah, vous faites un petit zigzag, et puis vous allez en même temps. Non. Vous avez Fribourg en même temps. Parce que c'est le mouvement physique qui est dans le temps. Alors, je ne peux pas y aller en même temps. Sauf une bilocation. Non, impossible autrement. Tandis que l'amour, il est spirituel. L'amour spirituel. Si c'était un amour passionnel, non. Mais un amour spirituel, oui. Un amour passionnel, je ne peux pas. Je ne peux pas vivre simultanément deux amours passionnels. Impossible. Je peux vivre simultanément deux amours spirituels. Parce qu'un amour spirituel augmente ma capacité d'aimer. Et donc me permet d'aimer encore plus. Mon cœur est ouvert à l'infini. C'est vrai, il est ouvert à Dieu. Et Dieu aime tout le monde en même temps. C'est un amour unique. Et la charité, là, au point de vue surnaturel, vous voyez, la charité me fait aimer tous les hommes d'un amour d'amitié. C'est ça qui est extraordinaire, parce que alors là, c'est le cœur du Christ qui est en moi et qui me permet ça. Mais déjà humainement, c'est toujours la même chose, c'est que la surnature s'enracine dans la nature et il y a déjà quelque chose qui appelle cela. Et donc, déjà humainement, l'amour spirituel n'est pas exclusif. Et l'amour spirituel, au contraire, va permettre d'aimer d'autres. Mais alors, chacun sera aimé de façon unique. Il ne faut surtout pas mettre une espèce de similitude, d'égalité. Je veux être parfait, donc je dois aimer tout le monde de la même façon. Ça, c'est manquer complètement à l'amour. On aime chacun d'une manière unique. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? La jalousie est d'ordre passionnel. Il n'y a pas de jalousie au niveau spirituel. Il y a la jalousie divine, mais alors la jalousie divine, ce n'est pas exclusif. Vous voyez ? La jalousie, ce que vous appelez la jalousie habituelle, passionnelle, je présume, hein, c'est celle-là que vous appelez. La jalousie passionnelle, pas la jalousie de Dieu. Hein. La jalousie de Dieu, c'est le zèle de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui se donne sans partage. Alors ça, c'est être jaloux divinement. La jalousie passionnelle est exclusive. Vous voyez ? Vous ne tolérez pas que quelqu'un d'autre puisse aimer la même personne que vous aimez. Vous êtes jaloux. Parce que c'est votre bien. Et que vous savez que s'il y en a un autre qui mord au gâteau en même temps, eh bien le gâteau ne sera plus aussi gros. Alors, à ce moment-là, vous êtes jaloux. Et donc, la jalousie est au niveau passionnel, et donc, au niveau sensible. C'est à cause de ça. Vous voyez ? Alors, successivement, c'est sûr. Si oui, le bien, oui, le bien, l'intention, leur intention de vie n'est-elle pas relative? Non, 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 non. C'est que de fait, c'est ça qui est très curieux dans l'ordre spirituel. Dès que je suis dans l'ordre spirituel humain, c'est que le bien spirituel qui est la personne peut être aimé n'est pas relativisé par autre chose. Je peux aimer simultanément, simultanément, vous voyez bien, c'est pas simultanément, c'est forcément un acte. Je pose simultanément, ça veut dire que lorsque j'aime, je ne peux pas aimer en même temps, simultanément, plusieurs actes, vous voyez, nécessairement. Il n'y a qu'au niveau de la vision béatifique où tout sera assumé. Mais autrement, il y a un acte successif, c'est sûr, il y a un acte successif. Mais ce n'est pas dans le temps, c'est au-delà du temps. C'est le temps propre à l'esprit. Et le temps propre à l'esprit fait que je peux vraiment aimer en même temps plusieurs personnes et les aimer intensément. Et l'intensité que j'ai vis-à-vis de l'une va pouvoir se répercuter vis-à-vis de l'autre. Et ceci, c'est le signe, j'allais presque dire, d'un amour spirituel. Parce que quand l'amour est trop passionnel, il est exclusif. Alors il va rechasser l'autre. Ne faut-il pas alors découvrir un bien transcendant, ces biens relatifs? De fait, c'est parce qu'il y a un bien qui transcende ces biens relatifs que ça c'est possible. Oui, mais je ne le découvre pas nécessairement psychologiquement. Mais c'est à cause de ça. Et c'est pour ça que ça pourrait être pour moi une preuve de l'existence d'un Oui, mais je ne le découvre pas nécessairement psychologiquement. Mais c'est à cause de ça. Et c'est pour ça que ça pourrait être pour moi une preuve de l'existence de Dieu. De pouvoir aimer plusieurs personnes, vraiment de les aimer. De pouvoir aimer plusieurs personnes, vraiment de les aimer. Donc ça prouve qu'il y a à l'intérieur de cet amour, qui a un certain absolu, une diversité, ça prouve qu'il y a une unité. Oui. Alors là, ce serait une preuve de l'existence de Dieu. Ce serait une preuve d'un amour premier. Bon, je continue. Il n'y a plus d'autres questions par rapport à ça? Oui. Vous dites qu'il y a plusieurs amours spirituels, mais il n'y a pas plusieurs intentions. Ah, on va voir ça. Je vais regarder. Je regarde l'intention. Regarde l'intention de vie. Alors, vous voyez, c'est ce passage du bien à la fin. Quelle différence y a-t-il entre le bien et la fin? Aristote dit ça admirablement au début de l'éthique. Hein. C'est une page qu'on doit souvent reprendre parce qu'elle est dite avec la simplicité d'Aristote sans donner beaucoup d'explications. Aristote nous prend toujours pour des êtres très intelligents et c'est pour ça qu'il ne bavarde pas. N'est-ce pas? Il dit les choses nettement. Alors, il dit « Le bien, c'est ce que tous désirent. Et la fin, c'est ce que nous voulons pour elle-même, en vue de quoi? En vue de. Tout est vu et désiré, en vue, voulu, en vue de la fin. Ce en vue de quoi? C'est la fin, ça. Vous voyez quelle différence d'expression? Et ça, je crois que c'est intéressant à réfléchir là-dessus. Le bien. C'est ce qui nous attire. Le bien exerce une attraction sur nous. En tant qu'il est notre bien, il nous attire. C'est pour ça que quand Aristote dit le bien, c'est ce que tous désirent, Aristote décrit une constatation. Ce n'est pas un principe. Non, ce n'est pas un principe. Dire le bien, c'est ce que tous désirent. Non, c'est tout simplement une constatation. Je constate que le bien attire. Le beau, c'est lui. Le bien attire. Hein? Le beau exerce une séduction. Alors on peut passer assez facilement de l'un à l'autre. Hein? Mais c'est dangereux quelquefois, parce que là, hein, la transformation du bien en beau peut vous mettre dans une velléité esthétique, très noble, mais une velléité. Quand le bien est devenu beau, je ne cherche plus à le prendre comme fin. Je le regarde. Même si c'est de loin, ça n'a pas d'importance. Il me séduit. Alors, vous voyez, l'amour est devenu velléité. C'est très curieux, ça. Et ça arrive, hein. Ça arrive. Je crois qu'au fond, c'est le phénomène d'Épicure. C'est l'esthétisme à l'intérieur de l'amour qui fait qu'à ce moment-là, on est séduit. On est séduit par quelque chose de beau. On est séduit par une beauté, qui peut être une beauté intérieure, qui nous prend. Donc, le bien, il nous attire. Il suscite en nous un amour. Le beau suscite en moi une séduction. Je suis séduit par le beau. Et c'est de l'ordre de la connaissance, beaucoup plus. Le beau est toujours de l'ordre beaucoup plus de la connaissance. Et la fin, c'est ce en vue de quoi j'opère, ce en vue de quoi je veux, je réalise, je fais cela. C'est ce en vue de quoi. Alors, voyez la différence. Ce en vue de quoi. Tandis que le bien, il m'attire. Le bien me transcende. La fin, elle est immanente à moi. Et c'est vrai, elle est immanente à moi, la fin. Elle provient du bien, tandis que le bien, puisqu'il m'attire, donc il est toujours extérieur à moi, il me transcende. Le bien me transcende. La fin implique une certaine immanence. Il faut que ce soit présent, ce en vue de quoi j'agis. Donc il faut que la fin soit présente à mon action pour pouvoir être efficace. Pour pouvoir m'entraîner à agir. Et donc, il y a une certaine présence de la fin. Et la présence de la fin se fera par l'amour. Puisque le bien, c'est ma fin. C'est ma fin dans la mesure où je l'aime, et dans la mesure où je l'aime d'une façon telle qu'il est capable d'ordonner toutes mes forces pour que je mette tout en cause pour atteindre ce bien. Alors je mets à ce moment-là tout en cause pour atteindre ce bien. Et donc la fin est présente en moi, elle est aussi ce qui me dépasse, c'est bien évident. La fin c'est ce vers quoi je tends. C'est ce vers quoi je tends, mais elle est présente en moi. À la différence, vous voyez, elle est présente en moi par l'amour que j'ai de ce bien. Puisque cette fin c'est ce bien. C'est ce bien en tant que je tends vers lui. Voilà ce que c'est que la fin. C'est ce bien en tant que je tends vers lui. En tant qu'il mobilise mes forces, en tant qu'il les organise, en tant qu'il fait que tout le capital de vie est mobilisé vis-à-vis de ce bien que je désire atteindre, que je désire, auquel je désire m'unir. Alors ça, c'est propre de la fin. C'est en ce sens-là que vraiment la morale commence avec une intention de vie. Tant qu'il n'y a pas d'intention de vie, je suis au-delà de la morale. L'amour en lui-même est au-delà de la morale. Il est surmoral. Il n'est pas moral. Parce que c'est lui qui donne la raison à la morale. C'est lui qui donne la signification à la morale. Donc il ne peut pas être moral. L'éthique, c'est l'aspect du conditionnement humain. L'éthique n'existe pas en Dieu. C'est le point de vue humain, l'éthique. Donc, c'est le point de vue du conditionnement humain. Donc, l'amour qui est en Dieu ne peut pas être moral. Tout amour vient de Dieu. Alors, vous allez me dire, ça c'est très grave. Hein? C'est très grave, parce qu'à ce qu'on va être de là, vous dites donc, tout amour, du fait même que c'est l'amour, c'est ce que certains disent du reste. Hein? Ah, que voulez-vous, j'aime. Donc, il n'y a plus de morale. J'aime. Aime et fais ce que tu veux. Oui, ça serait très bien. C'est parfait, disons. Fais ce que tu veux, ça s'ajoute. Hein. Oui. Aime, très bien, aime. Mais fais ce que tu veux, attention. Parce que là, tu es dans le point de vue moral. Et c'est ce que dit saint Augustin du reste. Parce qu'on a retiré cette parole de saint Augustin, je l'avais compris. C'est pas du tout ce qu'on fait dire à saint Augustin quand il dit « fais ce que tu veux ». Ça, c'est retiré, saint Augustin. Parce que saint Augustin reconnaît que l'amour est au-delà de la morale. L'amour n'a pas d'autre mesure que l'amour. C'est très vrai. Mais je puis accepter ou ne pas accepter que cet amour devienne pour moi une intention de vie. Et la morale consiste justement à accepter ou pas accepter cet amour, qui devienne une intention de vie, et qui prenne toute ma force, et qui mobilise toute ma force. Mais l'amour comme tel est au-delà de la morale. Mais c'est pour ça que je ne dis pas que l'amour fonde la morale, mais c'est beaucoup plus le point de vue de la femme. C'est l'intention qui structure, fonde, dans le sens où on dit, finalise. C'est-à-dire structure. Donc, il faut bien saisir ça, que le bien devient ma fin, dans la mesure où je considère que ce bien est mon bien, et qu'il est un bien tel qu'il est capable d'ordonner toutes les forces de ma vie. Parce que si je prends un bien très simple, un chocolat, c'est mon bien sensible. C'est évident que c'est un bien sensible. C'est pas une fin. Jamais vous ne diriez qu'un chocolat, c'est votre fin. Vous le diriez en blaguant, quoi. Mais en fait, c'est pas votre fin. Le chocolat, vous pouvez l'aimer. J'aime le chocolat. S'il est bon. Il n'y a rien de mal. Vous avez le bon goût, vous avez le chocolat. Très bien, vous l'aimez. À quel moment ça devient mauvais? C'est lorsque j'organise toute ma vie en vue d'obtenir ce chocolat. Alors, je mobilise toute ma vie en vue d'obtenir ce chocolat. Alors à ce moment-là, ça devient mauvais. Ça devient déréglé. Mais le chocolat, vous très bien. On dira, non, mais n'en prenez pas trop, c'est ce qu'on dira, parce que vous serez malade. Ou tout simplement, parce que pendant que vous prenez le chocolat, vous ne pensez pas à autre chose. C'est aussi un peu gênant, vous perdez du temps à manger trop de chocolat. Et puis, c'est pas bon pour votre foi, c'est pas bon. Alors, voilà, des tas de raisons comme ça, vous voyez. Mais ce qui devient mauvais, c'est quand, justement, j'organise toute ma vie, l'organisation de toute ma vie, c'est l'intention. Où je fais de ce bien ma fin. Alors que ce bien n'est pas digne d'être ma fin. C'est là où intervient la morale, vous voyez. C'est le passage, entre le passage du bien à la fin. C'est là où la morale commence. Pas avant. Tandis que là vraiment, il y a quelque chose. Je fais de ce bien ma fin. Est-ce qu'il est légitime pour moi de faire de ce bien ma fin? Il y a des biens qui ne peuvent pas être ma fin, il y a des biens qui peuvent être ma fin. Tout dépend de la qualité de ce bien. Et je me poserai alors à ce moment-là la question, quels sont les biens qui peuvent être ma fin? Oui. Ça, c'est très important. Là, la lucidité intervient. Et la lucidité de l'intelligence intervient. Est-ce que la gloire peut être ma fin? La gloire est un bien. La gloire est un bien. C'est un bien humain, la gloire. Si j'ai bien agi, mais c'est normal qu'autour de moi, on en parle. Si j'ai bien agi, c'est normal qu'on en parle. Oui. Bon, le jour où je suis séduit par ça, ou alors je mets toute la finalité de ma vie pour qu'on continue d'en parler, à ce moment-là, ça devient mauvais. Mais autrement, la gloire est un certain bien. Tout dépend si j'arrive à le dépasser. Et je considère que c'est un bien relatif. C'est un bien relatif. Pourquoi c'est un bien relatif? Parce que c'est un bien extérieur qui ne qualifie pas directement mon âme et qui ne rend pas bonne mon âme. Donc c'est un bien relatif. Quel est le bien vrai? Ah, l'amour d'un ami. Il peut être un bien. Donc, l'amour de cette personne que je considère comme mon ami, l'amour de cette personne qui peut être mon ami, cet amour peut devenir une fin. et une fin qui est légitime. Pourquoi ? Parce que ce bien, c'est une personne humaine qui a un certain absolu et qui est capable de nous perfectionner. Et donc à ce moment-là, il y a tout un raisonnement là. C'est qu'est-ce qui est capable de me perfectionner ? Qu'est-ce qui est capable de m'agrandir ? Qu'est-ce qui est capable de me permettre d'être plus moi-même et d'aller au-delà de moi ? C'est ça le bien qui est ma fin. Et qui, par le fait même, peut mobiliser toutes mes forces en vue de ce bien, en vue de cet amour. Vous voyez donc que le passage du bien à la fin présuppose l'œuvre de l'intelligence. C'est l'intelligence qui va voir si ce bien peut être un principe qui ordonne toutes mes activités, c'est-à-dire si ce bien peut devenir une fin, ce en vue de quoi j'ordonne tout le reste, ce en vue de quoi j'opère tout. À ce moment-là, le bien devient un principe de mon activité, qui ordonne mon activité, et qui fait que toute la complexité de mon activité s'ordonne vers ce bien que je considère comme ma fin. Ça, alors, on va le voir. Cette fin ultime, c'est le bien ultime, le bien suprême. Mais c'est ce que je voudrais que vous compreniez, c'est le passage entre le bien et la fin. Ça me semble très important, parce que c'est là où joue le point de vue moral. C'est là où intervient le point de vue moral. Et c'est là où on peut, vous voyez, sans moraliser, c'est ça qui est très, très beau, sans moraliser, je ne fais absolument pas appel à une loi, tout ça, je fais simplement appel à la dignité de la personne humaine. C'est la dignité de la personne humaine qui implique qu'elle est capable elle-même de considérer si tel bien peut être ce qui mobilise toutes ses activités. Alors, on est libre de ça. Vous pouvez très bien orienter toute votre vie, je vous dis, sur le bout de chocolat, un peu d'alcool, parce que vous l'aimez tellement que ça mobilise toutes vos forces. Hein, en rien autrement. Alors vous êtes orienté, polarisé vers ça. Et tout prendra sa signification, tout prendra sa couleur à partir de ça. Disons, sa couleur et son odeur. Et c'est à partir de là que je mobilise toutes mes forces vers ça. Alors ça, c'est vraiment le point de vue moral. Le point de vue moral s'organise à ce moment-là. Si ce bien est digne de l'homme et qui devient ma fin, ah très bien. Vous voyez, je suis parti de l'amour d'amitié. Et c'est l'amour d'amitié qui me fait comprendre ce bien. La personne humaine est mon bien, la personne humaine est ma fin. Elle est ma fin. Elle n'est pas ma fin dernière. Alors là, j'arrive à ce que je disais tout à l'heure. La constatation qu'il y a divers fins. Qu'il y a des fins qui se hiérarchisent les unes vers les autres. Et ces fins qui se hiérarchisent les unes par rapport aux autres font que nécessairement, je vais me poser la question, puisque je constate une diversité de fins. Y a-t-il une fin ultime ? Et ça, au point de vue moral, c'est très important. Y a-t-il une fin ultime ? Eh bien, je dirais qu'il y a nécessairement une fin ultime. Parce que dans l'ordre des fins, on ne peut pas remonter à l'infini. Aristote dit ça tout bonnement. Dans l'ordre des fins, on ne peut pas remonter à l'infini. Pourquoi on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des fins ? Parce que la fin est source d'ordre et l'ordre implique une limite. Donc, il faut comprendre l'œuvre de l'intelligence qui intervient pour me faire comprendre la diversité des fins, ce qu'est la fin et leur diversité, et me faire comprendre comment il y a nécessairement un ordre parmi ces diverses fins, qui sont multiples, et qu'il y en a une qui s'impose à moi d'une manière ultime. Alors, vous voyez, c'est là où va jouer le point de vue de la philosophie première. Ce n'est pas l'éthique qui peut déterminer le bien suprême, le bien premier. C'est la métaphysique qui seule peut regarder le bien. Parce que la métaphysique regarde l'art. Alors elle peut regarder le bien. Et se poser la question, y a-t-il un bien suprême ? Tandis que l'éthique, elle, elle se contente de l'aimer. Elle se contente de le condamner. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.